Ce jour-là, Jésus marchait dans la ville de Jérusalem et il est allé dans la ville basse, dans les petites rues, les rues pleines de monde, pleines d'agitation. Et il s'est dirigé vers la piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de monde. Et il était bien connu qu'à cette piscine de Bethesda, un certain nombre d'handicapés, de malades se sont rassemblés, attendant une guérison tout à fait hasardeuse. Et Jésus a vu cet homme qui était couché, parce qu'il ne pouvait probablement même pas marcher sur des béquilles. Cet homme était couché et Jésus savait qu'il était malade depuis 38 ans. Cet homme n'était pas jeune. Et Jésus, qui lit dans les cœurs, savait que cet homme était malade à cause des fautes et des péchés qu'il avait commises et qui avaient produit des conséquences néfastes dans son corps. Et Jésus va s'approcher de cet homme qui est là depuis 38 ans, attendant la guérison et ne la recevant jamais. Et lorsque Jésus s'approche de cet homme, il va lui poser une question bizarre. Cette question, elle nous a rapportée dans l'évangile de Jean, chapitre 5, où nous est racontée cette histoire, cette rencontre de Jésus avec cet homme paralysé. Jésus va tourner vers lui les regards et va lui demander « Veux-tu être guéri ?» La question est un peu étrange. Il est malade, il est là pour être guéri, il ne l'a jamais été et Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» C'est une question un peu bizarre. Imaginez que vous allez chez le médecin et le médecin vous dise « Est-ce que vous voulez être guéri ? » Ben, enfin oui, c'est pour ça que je suis là. La réponse paraît tellement évidente, et puis, réflexion faite, on pense que Jésus n'a pas posé cette question à toutes les personnes qu'il a guéries. Jésus va poser cette question à cet homme-là. Il a sans aucun doute une raison pour poser cette question à cet homme-là. Veux-tu être guéri ? La question est étrange parce qu'il nous semble que toute personne malade n'a qu'un désir, c'est celui d'être guéri. Et quand celui qui peut demande encore « Est-ce que tu veux être guéri ?» La chose est curieuse. Et pourtant, il semble que dans notre nature humaine, tumultueuse, pécheresse, nous soyons capables, malades que nous sommes, de ne pas vouloir la guérison. Bien entendu, Jésus s'adresse à cet homme, il est malade physiquement, et Jésus sait, parce qu'il voit dans le cœur, que cet homme a aussi besoin d'une guérison spirituelle, d'une guérison intérieure. Tous les malades ne sont pas dans cette situation-là. C'est pour cela que Jésus n'a pas posé cette question à tous les malades qu'il a rencontrés. Mais à celui-là, il va poser cette question. Veux-tu être guéri ? Je pense à d'autres exemples dans les Écritures, où curieusement, les gens ne voulaient pas la guérison. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 8, nous est rapporté cet événement de la vie de Jésus, où il va se rendre de l'autre côté du lac de Galilée et rencontrer les Géraséniens. Il y a dans ce pays un comité d'accueil un peu particulier pour Jésus. Et vous vous souvenez qu'à peine arrivé, un démoniaque l'accueille. Un fou furieux que tout le monde craint, qu'on ne peut pas attacher. Et lorsque Jésus approche, curieusement, cet homme va dire ceci. Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 28. « Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ne viens surtout pas me déranger. » Autrement dit, le démon lui-même demande à Jésus de ne pas lui créer de problème. « Laisse-moi comme je suis. Ne viens surtout rien bousculer ici, s'il te plaît. » Voilà la supplication de cet homme possédé. Jésus, qui sait regarder au fond du cœur, va faire la différence entre les paroles du démon et les paroles du cœur de cet homme qui soupire après la délivrance. Et vous savez comment Jésus va délivrer cet homme. Comment cet homme va venir à ses pieds pour l'écouter. Et le texte nous dit, il va venir l'écouter, vêtu dans son bon sens. Voilà un homme aux pieds de Jésus. Mais la suite de l'histoire est curieuse. Dans le même chapitre, au verset 36, il est dit ceci. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Et Jésus a repris sa barque et il est parti. Voilà des gens qui se trouvent dans une situation vraiment curieuse. Ils sont témoins d'une guérison extraordinaire. Personne ne peut guérir cet homme. Jésus le guérit et ils disent « Non, ne reste pas ici ». Oui, c'est vrai, ils ont perdu leur troupeau de cochons. C'est là que le démon est allé. Ils sont tombés au-delà de la falaise, ils sont morts, ils ont perdu de l'argent, je sais. Mais enfin, Jésus est là pour les guérir, eux aussi, de tous leurs maux, de toutes leurs possessions, de tous leurs démons. Et ils disent, ne reste pas ici. Rentre donc chez toi, de peur que tu ne fasses trop de changements chez nous. Ils préfèrent rester sous la domination de Satan avec leur argent que d'envisager la possibilité de venir sous l'influence de Dieu, quel qu'en soit le prix. Des gens qui ne voulaient pas que Jésus les guérisse. Et lorsque l'on parle de cela dans le domaine religieux, on va parler de cette guérison qu'est la conversion. Est-il possible que quelqu'un ne veuille pas être converti? Je pense à cet exemple biblique de Saül et nous trouvons son histoire dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel au chapitre 15, nous trouvons encore là les désobéissances de Saül, premier roi d'Israël. Il avait reçu des instructions précises sur ce qu'il devait faire et ne pas faire, et il n'a pas suivi ces instructions. Et lorsque le prophète arrive, il va lui dire une grande vérité qu'il n'avait pas encore comprise. Premier livre de Samuel, chapitre 15, nous lirons le verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. » Voilà une leçon donnée à Saül, et qui est intéressante parce qu'elle nous paraît même aujourd'hui très forte. Est-ce que nous serions prêts à comparer la résistance à l'appel de Dieu avec l'idolâtrie? Serions-nous prêts à dire que cet homme, cette femme, ce jeune qui résiste à l'appel de Dieu est un idolâtre? Quelqu'un qui invoque les esprits? Quelqu'un qui est dans le spiritisme? À ce point-là, c'est ce que Samuel dit de la part de Dieu à cet homme qui, curieusement, finira sa vie de cette manière-là, dans l'idolâtrie et le spiritisme. Alors, il va réagir. Au verset 24, il dit « J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à sa parole. » J'ai péché. Il le reconnaît. Il le répète encore un peu plus loin. Au verset 30, Saül dit encore « J'ai péché. Maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple. » J'ai péché. Il le reconnaît. Mais curieusement, la suite des événements de la vie de Saül ne montre aucun changement dans son attitude, aucune transformation, rien. Un peu plus loin dans la vie de cet homme, nous retrouvons le roi dans une situation curieuse, dans 1 Samuel, chapitre 24. David, qu'il veut faire périr, épargne sa vie. 1 Samuel, chapitre 24. Vous connaissez cette histoire où Saül va dans la caverne d'En-Gedi, et là, dans la caverne, sans qu'il le sache, David est présent. Ses amis l'invitent à le tuer et il dit non. Il va simplement couper un morceau de son manteau, le laisse partir et le lui montre pour lui faire comprendre qu'il avait toutes les possibilités entre ses mains de l'éliminer. Et là encore, David réagit. 1 Samuel, chapitre 24, verset 18. Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien. » Et moi, je t'ai fait du mal. Il le regrette, il en pleure, il se rend compte qu'il a fait le mal. Mais la suite de sa vie, la suite de l'histoire montre que rien n'a changé dans la vie de cet homme. Rien. Il est resté le même. Une troisième fois, deux chapitres plus loin, au chapitre 26, il va se repentir, semble-t-il. Et ici encore, David va épargner sa vie. Saül dort avec ses amis, avec ses soldats. David va venir de nuit avec son serviteur et son ami, et il pourrait tout simplement le transpercer et le clouer au sol avec sa lance. Et David dit non, la lance, on va la prendre, et on va prendre aussi sa cruche d'eau avec. Et David s'en va. Et de l'autre côté de la vallée, le lendemain matin, il lui montre, est-ce à toi? Est-ce que ces choses t'appartiennent? De nouveau, Saül réagit. Dans 1 Samuel, au chapitre 26, c'est le verset 21. Saül dit, « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. » Saül se repent encore, mais la suite de sa vie ne montre aucun changement, ni dans son comportement, ni dans sa manière de penser. Plusieurs fois, il se repent, plusieurs fois, il se rend compte de son erreur. Plusieurs fois, il exprime le désir que ça change. Et rien ne change, pas de guérison. Le prophète lui avait fait comprendre qu'en réalité, devant ce cœur dur qui ne voulait pas obéir et suivre les instructions de Dieu, Dieu s'était retiré de lui. À la fin de sa vie, Dieu ne le lui répondra même plus quand il souhaite que Dieu lui parle. Est-il possible de ne pas vouloir guérir? Est-il possible de ne pas vouloir guérir du péché? C'est un peu la situation dans laquelle les religieux du temps de Jésus se trouvaient. Jésus d'ailleurs le leur dit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, il leur dit « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jésus exprime ici sa frustration devant cette grande inconséquence. Ils cherchent le moyen d'avoir la vie éternelle, et quand le Sauveur est là, ils n'en veulent pas. De peur qu'il les guérisse, de peur qu'il change quelque chose. « Veux-tu être guéri ?» demandait Jésus à ce paralytique. Finalement, c'est une bonne question, parce que la réponse positive n'est pas évidente. Dans le fond, nous sommes capables de vouloir guérir et en même temps de ne pas vraiment en avoir envie. Nos habitudes, notre caractère ou notre maladie physique même sont devenues tellement partie de nous-mêmes que nous avons peur de ne plus être nous-mêmes si nous sommes guéris. Nous sommes ainsi forgés par ce que nous sommes, que ce soit bien ou que ce soit mal. Ainsi, la difformité de notre caractère, le négatif de nos habitudes, même les limites que nous impose la maladie sont devenues partie de notre personnalité, partie de nous-mêmes. Et parfois, nous devons admettre que nous y sommes attachés autant qu'à notre identité, qu'à notre personnalité. Ce vilain caractère que j'ai fait finalement que les gens font attention à moi. Ils font attention de ne pas me vexer, de ne pas me contrarier. Et j'aime ça. J'ai des égards de leur part. Parce que les gens disent, « Oh, attention, il est comme ceci, il est comme ça. » Maintenant, si je change, je n'aurai plus cette espèce de pouvoir sur les autres. Ils ne seront plus soumis, comme ils l'étaient avant, à ma volonté, à mes caprices, à mes envies. Cette maladie même que j'ai, elle fait que finalement, les autres me plaignent, prennent soin de moi, ils pensent à moi, ils prient pour moi, on parle de moi. C'est bien finalement, je suis un peu le centre d'intérêt. Je peux, à cause de ma maladie, demander des faveurs que l'on va m'accorder, parce que on me regarde avec un peu de pitié quand même. Mais si je guéris, je vais perdre ces avantages que j'ai et que les autres me donnent. Si je guéris, je ne serai peut-être plus le centre d'attention de tous ceux qui ont beaucoup de compassion. Si je guéris, je n'aurai plus cette impression d'être le centre d'intérêt de tout le monde. Et puis, j'espère qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre de malade qui va attirer l'attention aussi sur lui. Ainsi, si je guéris, je vais perdre ces avantages. Si je suis malade, finalement, ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable. Mais si je suis guéri, je deviens de nouveau responsable de moi-même. Et je n'ai peut-être pas envie d'être responsable de moi-même. Finalement, nous ne voulons pas nécessairement être guéris. Et si Jésus nous pose la question « Veux-tu être guéri ?», ce n'est pas sûr que nous soyons prêts à dire oui. Parce que c'est un peu une sorte de fuite. Nous nous rendons compte de notre faiblesse, nous nous rendons compte de notre péché, nous nous rendons compte qu'il y a plein de choses à changer, qu'il y a plein de choses à guérir. Mais toutes ces choses nous rapportent aussi des avantages, pensons-nous, que nous n'avons peut-être pas le courage de perdre. C'est un peu aussi comme les médicaments. Et s'il y a des médecins dans la salle, qu'ils me pardonnent. Les médicaments, en fait, c'est pas nécessairement pour guérir. Les médicaments, c'est parfois une fuite. Dans son livre « Médecine de la personne », le docteur Paul Tournier écrit ceci. Écoutez avec quelle perspicacité il voit la chose. Mais la thérapeutique peut devenir un grand danger quand, en combattant les symptômes, elle permet d'échapper à la recherche courageuse des fautes de vie avec lesquelles il faudrait rompre, en répétant aux hommes que le progrès scientifique était illimité, qu'il permettrait de vaincre toutes les maladies. On a allumé en eux le faux espoir que grâce à la science, ils pourraient vivre impunément dans les pires désordres. Mais oui, en fait, quand je demande au médecin des médicaments, ce n'est peut-être pas pour guérir, c'est peut-être tout simplement pour cacher les symptômes et ne pas réformer dans ma vie ce qui a causé la maladie. Autrement dit, je voudrais quelque chose qui enlève les inconvénients, mais qui ne change rien au reste. Et qui finalement ne guérit pas non plus le vrai problème. Alors, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Devant cette situation, que faisons-nous? Alors souvent, nous invoquons la grâce de Dieu. Et nous disons, finalement, Dieu nous accepte tel que nous sommes. Puisqu'il nous prend tel que nous sommes, ai-je besoin donc d'être différent? Et c'est vrai. C'est vrai que Dieu nous reçoit tel que nous sommes, mais il peut y avoir une perception perverse de cette grâce de Dieu ou une incompréhension de ce qu'est la vraie grâce de Dieu, parce que dire « Dieu me prendra tel que je suis », ça peut devenir « Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi, mais ne me change pas de manière à ce que je puisse rester tel que je suis. C'est encore avantageux pour moi. Pardonne-moi. » Mais ne me change pas. En fait, quand on y réfléchit, cette hésitation que nous avons à guérir dans notre caractère, à guérir de nos péchés, et parfois même à guérir de nos maladies, en revient au fait de ne pas vouloir mourir à soi-même. Je n'ai pas envie d'être perçu par les autres autrement qu'au travers de cette image que j'ai construite de moi-même, dans laquelle il y a mes défauts, mes qualités, mes habitudes, ce que je suis, ce que j'ai finalement accepté d'être par le temps, faute d'avoir remporté les victoires. En réalité, je me suis créé cette personnalité et j'ai peur qu'en guérissant de telles mauvaises habitudes, en guérissant de mon caractère, je ne sois plus le même. Et en effet, lorsque le Christ nous invite à mourir à nous-mêmes, il nous invite à ne plus être les mêmes, mais à lui ressembler à lui. Ainsi, il se peut que dans cette situation paradoxale, nous nous trouvions avec le désir de nous installer dans la situation où nous sommes, parce que la grâce que nous avons demandée, nous pensons qu'elle se limite à pardonner. Et faute d'avoir les victoires auxquelles nous avons rêvé, alors nous allons descendre les attentes de Dieu à notre niveau de compétence humaine. Finalement, Dieu ne va pas me demander plus que ce que j'arrive à faire avec mes propres forces. Dieu me prend tel que je suis, n'est-ce pas? Et nous nous installons dans cette médiocrité chrétienne et nous nous installons peut-être dans la maladie de notre caractère, de notre cœur, ou parfois même de notre corps. Et si à ce moment-là, Jésus vient et me dit « Veux-tu être guéri ?» La question a du sens. Parce que finalement, est-ce que je serais capable de dire oui de tout cœur pour être guéri aussi? En fait, ne pas vouloir être guéri, c'est ne pas croire que si Dieu me guérit, je serai plus heureux après que je ne le suis maintenant. Plus heureux et plus épanoui. Ce n'est pas croire que si Dieu me guérit, je serai encore plus moi-même que je ne le suis maintenant. Ce n'est pas croire que quand Dieu guérit, en même temps, il me délivre. Je pense à cette rencontre de Jésus avec Marie dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Vous vous souvenez, on lui apporte cette femme dont le nom n'est pas donné ici. Et il est dit qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Vous vous souvenez comment Jésus réagit avec beaucoup de calme. On la jette devant lui et on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire avec une telle personne. Vous vous souvenez que Jésus va écrire dans la poussière du sol. Ce qu'il écrit, nous ne savons pas vraiment. Mais en tout cas, c'est suffisant pour faire fuir tous ceux qui m'ont amené cette femme à Jésus. Finalement, Jésus va s'adresser à elle, c'est au verset 10. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ce que Jésus dit à cette femme, il va le dire de la même manière à ce paralytique qu'il va guérir à la piscine de Bethesda, cet homme qui était malade depuis 38 ans. Il va le retrouver quelque temps après dans le temple, il va lui dire, « Tu es guéri maintenant. Va, ne pêche plus. » Autrement dit, ne te contente pas de ce pardon. Ne te contente pas de recevoir ce que je t'ai donné là maintenant, guéri entièrement. Ne retourne pas là où tu étais avant. Ne pense pas que tu as reçu une grâce qui te permet maintenant de vivre comme avant. Sois guéri, ne pêche plus. Accepte une transformation qui fera de ta vie quelque chose de nouveau à partir de maintenant et dans l'avenir. Ne te satisfais pas de la situation ancienne. Accepte la guérison. La guérison, curieusement, n'est pas nécessairement ce que nous souhaitons. Et en réfléchissant, nous nous rendons compte qu'il y a des avantages parfois à être malade, des avantages à avoir mauvais caractère, des avantages à être un pécheur, des avantages, pensons-nous. Lorsque Jésus présente son ministère, il va le faire en utilisant un passage de l'Ancien Testament qui est intéressant. Et je vous propose de le regarder avec moi dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4. Jésus est là à Nazareth, il est dans la synagogue le jour du sabbat. On lui donne la lecture à faire et Jésus va lire dans le prophète Ésaïe au chapitre 61. Nous trouvons ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 4 à partir du verset 17. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous remarquez comment dans ce texte, plusieurs éléments sont mis ensemble. Jésus est venu pour publier une année de grâce, il est venu pour apporter la grâce à tous ceux qui veulent la recevoir, le pardon, le salut en son nom. Mais il est venu aussi pour apporter la guérison à tous ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu aussi pour apporter la libération à tous ceux qui sont opprimés, d'une façon ou d'une autre. Toutes ces choses font partie de ce que Jésus apporte. Et vous vous souvenez comment ce passage fait référence à l'institution du jubilé, où tous les comptes étaient mis à zéro, tous les 7 fois 7 ans. De cette manière, Jésus présente ici toute la puissance de sa grâce, non seulement pour pardonner, mais pour guérir, pour transformer en profondeur. Dans le livre que je mentionnais tout à l'heure, le docteur Paul Tournier parle d'une femme qui lui a envoyé une lettre dans laquelle elle exprime l'expérience qu'elle a vécue à l'hôpital. Cette femme a été victime d'un accident grave et elle a vécu à l'hôpital une véritable transformation. Plus tard, elle a écrit au docteur qu'elle connaissait et il a rapporté une partie de sa lettre dans son livre. Permettez que je vous en lise un paragraphe. Voici ce que m'écrit une ancienne malade. Obligée de rester alitée et par ce fait dépendante des autres pendant des mois, à la suite d'un grave accident, j'ai bientôt réalisé le danger que j'allais courir si je restais passive dans mon lit. En effet, à peine arrivée en clinique, l'état d'esprit change. Sans s'en douter, on se prend pour le centre de toute chose, du monde entier. C'est mon accident, mes docteurs, ma garde, mes piqûres, ma toilette, mes repas, ma digestion, mon thermomètre, etc. Tout ainsi, peu à peu, devient exclusif et de la plus haute importance. Puis, c'est mon cas, unique en son genre, et bientôt tout tourne autour de mes possessions créées par les événements, et je deviens quelque chose de vraiment intéressant. Mes visites, enfin, me le font croire. Ayant réalisé cet état d'esprit lamentable, un beau matin, j'ai décidé de changer complètement ma manière d'être et de sortir coûte que coûte de moi-même. De vouloir finalement guérir. Ce que cette femme exprime est symptomatique de ce désir, parfois, de s'installer dans la maladie, qu'elle soit spirituelle ou physique, à cause de notre égoïsme, de notre orgueil, à cause du fait que nous devenons importants aux yeux des autres. Et pourtant, le Seigneur nous propose une guérison. Une guérison qui va bien au-delà des avantages que nous pensons pouvoir garder en restant malade, spirituellement ou physiquement. Dans le livre « Vers Jésus », à la page 51, nous trouvons une clé pour la guérison. Comment faire pour s'abandonner à Dieu? Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie péché. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections. Mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté. Alors, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Veux-tu être guéri? Finalement, c'est une bonne question. Est-ce que devenir semblable à Jésus est maintenant pour vous plus important que d'être semblable à vous-même? Est-ce que recevoir l'attention des autres que vous voyez autour de vous, est-ce devenu plus important que d'avoir l'attention de votre Sauveur que vous ne voyez pas et qui promet d'être avec vous tous les jours? Est-ce que vous préférez être connu comme quelqu'un que la puissance de Dieu n'a pas pu guérir? Ou est-ce que vous préférez être connu comme quelqu'un que Jésus a guéri en profondeur? Je souhaite qu'aujourd'hui le Seigneur nous guérisse de tous nos maux, ceux de notre caractère, ceux de notre corps. Je souhaite qu'il me guérisse, qu'il vous guérisse, qu'il guérisse son Église, pour la faire paraître devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen.